La Pologne est à la tête depuis le début de l'été de la présidence du Conseil européen. Pour l'heure, tout se passe bien et il semble qu'il n'y ait pas de raison pour que cela change. La situation de Varsovie au sein de l'Union est plutôt assez confortable et, faut-il le préciser, beaucoup plus que nombre de membres à l'ouest comme à l'est. Ses résultats sont bons. Son PIB est en constante progression et la Gazeta Wyborcza n'hésite pas à titrer « Tandis que l'Europe s'affaiblit, la Pologne tient encore bon ». Alors pourquoi bouder son plaisir? Il y a longtemps qu'à l'ouest, un grand et ancien pays de l'Union aurait déjà manifesté sa satisfaction bruyamment et sans émettre de doute quant à ses compétences en matière de gestion économique. Mais à Varsovie, nombre d'économistes estiment que la croissance ne pourra résister au ralentissement de l'économie dans la zone euro. Ils notent la faible croissance du PIB allemand et le spectre du complexe passéiste revient au grand galop. En effet, alors que la Pologne semble s'imposer naturellement comme pays leader en Europe centrale et orientale, et cela tombe bien car elle a les moyens de ses prétentions, elle semble ne pas pouvoir encore dépasser le stade du complexe d'infériorité vis-à-vis des grands pays d'Europe de l'Ouest. Mais cette attitude est aussi un vieux réflexe centre-européen en général et polonais en particulier. Si récession il y a, ce ne sera donc pas de leur faute, mais celle des grands pays frontaliers. En l'occurrence, dans le cadre d'un problème économique, cela ne pourra venir que de l'Allemagne, évidemment, dont pourtant le dynamisme est un encouragement au développement de leur propre économie. Les Polonais ne vont-ils pas jusqu'à profiter de l'Allemagne en s'installant au-delà de la frontière dans l'est du pays que leurs habitants d'origine délaissent pour l'ouest et où ils trouvent des services sociaux, par exemple, beaucoup plus développés que chez eux? Si les frontières politiques ne peuvent bouger, celles économiques et sociales semblent ne pas devoir s'en préoccuper. Mais revenons aux questions économiques avec les trois principaux grands pays de l'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, qui, après avoir été victime de la crise financière de la fin 2008, rappelons que la Hongrie a même dû faire appel au Fonds monétaire international, semble beaucoup moins fragilisée par la crise de la dette des pays de la zone euro de 2011. Il est vrai que ceux-ci n'en sont pas encore membres et que le fait d'avoir une monnaie plus faible que l'euro leur a permis de soutenir leur économie et leur exportation, principalement en Allemagne, plus aisément. Avantages et inconvénients, car comme en 2008, ces pays sont par conséquent exposés au risque de change entre leur monnaie et certaines devises étrangères utilisées, comme le franc suisse en Hongrie, monnaie qui en ce moment est assez chère. Ainsi, la situation financière des grands États centre-européens ne semble pas pour l'instant en danger. Par contre, celle des particuliers est plus délicate, surtout si la monnaie locale chute, et dans ce cas, l'on pourrait revivre un scénario à la 2008-2009 où les particuliers se sont retrouvés avec des emprunts immobiliers ou de consommation impossibles à rembourser car libellés en devises étrangères et par conséquent bien trop élevés. Enfin, ces pays ne sont pas membres de l'eurozone, mais membres de l'Union européenne et par conséquent bénéficiaires des fonds de cohésion européens. Le 5 octobre, la Commission européenne statuera sur ces fonds dont le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel aimeraient qu'ils soient liés à l'idée de suspension de ces aides aux États dont le déficit est jugé excessif. Les États d'Europe centrale sont a priori hostiles à cette proposition du couple franco-allemand, comme le Parlement européen d'ailleurs. Si la grande question de politique étrangère de la présidence du Conseil européen de la Hongrie était l'adhésion de la Croatie, celle de la Pologne est la Serbie. On aurait pu croire que cela eût été l'Ukraine, mais il semble que la situation à Kiev soit un peu bloquée et désormais les yeux se tournent plus vers Belgrade. Varsovie veut en effet signer le traité d'adhésion avec la Serbie avant la fin de sa présidence, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Avec l'arrestation et l'extradition vers le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye de deux anciens généraux serbes fugitifs Ratko Mladic et Goran Jadzic, impliqués dans la guerre de Yougoslavie et accusés de crimes de guerre, certains ont cru et on a voulu leur faire croire que l'affaire était dans le sac et que la Serbie allait directement avoir son billet d'entrée dans l'Union européenne. Mais il semble que les choses soient un peu plus compliquées et la question du Kosovo reste un problème pour certains, ou plus exactement pour certaines, puisque Angela Merkel, la chancelière allemande qui rentre tout juste d'une visite dans les Balkans, semble vouloir conditionner l'entrée de ce pays dans l'Union à, entre autres, l'abandon des institutions parallèles serbes au Kosovo, ce que Belgrade refuse, l'estimant antidémocratique puisque les dites institutions sont basées sur des élections. Il s'agit aussi de faire accepter à Belgrade la présence d'ELEX, la mission européenne de police et de justice sur tout le territoire kosovar. Justement, après la rencontre entre la chancelière allemande et le premier ministre serbe, dans le cadre de l'enquête diligentée après la mort d'un officier de police kosovar lors des troubles qui ont éclaté en juillet dernier pour le contrôle de deux postes frontières au nord du Kosovo, à la frontière entre les deux entités, ELEX et la KFOR ont pu mener des perquisitions et des mandats d'arrêt ont été établis. Qu'elles le veulent ou pas, Belgrade et Pristina doivent reprendre le 2 septembre le dialogue sous les auspices de l'Union européenne. Candidate à l'Union, la Serbie a bien du mal à accepter que Bruxelles intervienne dans ses affaires et aime jouer sur les deux tableaux en parallèle avec l'ONU. Pourtant, Belgrade doit faire des choix qu'elle sait au fond d'elle-même inéluctables. Pour autant, est-elle prête à les faire maintenant? Il semble que ce soit encore trop tôt, car pour la Serbie, la reconnaissance d'un État kosovar reste encore inenvisageable. La situation ne semble guère plus avancée en Ukraine. L'ancien premier ministre, égérie de la Révolution orange de 2005, Yulia Tymoshenko, est jugée par les tribunaux de son pays sur fonds d'affaires énergético-russo, etc., etc. Ce procès, jugé par l'Union européenne et de nombreux pays occidentaux comme plus politique que criminel, argument avancé par ses accusateurs, constitue un frein au processus de rapprochement entre Kiev et Bruxelles. Les autorités polonaises, très sensibles à tout ce qui se passe chez leurs voisins à travers la parole de leur président, espèrent que Kiev et plus particulièrement l'actuel Premier ministre Viktor Yanukovych feront tout pour enlever ce doute quant à une éventuelle vengeance politique dirigée contre Yulia Tymoshenko. Incarcérée depuis le début du mois d'août, celle-ci serait victime d'une mystérieuse maladie alors que le gouvernement ukrainien estime que son état de santé est satisfaisant. Cette mystérieuse maladie fait penser à l'empoisonnement à la dioxine dont aurait été victime l'ancien président ukrainien, lui aussi héros de la révolution orange en son temps, Viktor Yushchenko. Afin de lever les doutes, l'Union européenne a demandé à l'Ukraine qu'un examen médical indépendant soit effectué sur Yulia Tymoshenko. L'accord pour un tel examen et les résultats joueront à n'en pas douter sur les discussions engagées entre Bruxelles et Kiev pour signer un éventuel accord d'association prévu avant la fin de l'année.